Cool Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Full Santé Mentale, l'émission qui, chaque mois, démonte les tabous et détricote les idées reçues au sujet de la santé mentale. Et ce mois-ci, nous allons parler du bien-être chez les jeunes.
Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN.
Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et quel plaisir de retrouver Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul.
Bonjour Thomas.
Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans notre studio.
Partagé.
Je sens qu'à chaque fois, on a de plus en plus de plaisir à se voir, Marie-Paul. Et je rappelle, Marie-Paul, vous êtes présidente de l'association Bipolaire. Si tu savais, un petit mot sur l'association.
Oui, c'est une association qui a pour but d'informer le grand public sur les troubles bipolaires, parce que tout le monde connaît le mot bipolaire, mais en fait, la réalité des personnes qui ont le malheur de vivre avec les troubles bipolaires, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et donc, notre travail, c'est d'expliquer... Parce que le rôle de l'entourage d'une personne touchée est très important.
Ce qu'on appelle aussi les aidants. Merci Marie-Paul d'avoir effectivement redit un mot sur l'association qui vient de fêter son anniversaire, d'ailleurs.
Il y a très peu de temps, les 10 ans de l'association.
Et on est toujours donc ravis de vous avoir à nos côtés. À mes côtés également, Roman Gladzer du CREPSI. Bonjour Roman, comment vas-tu ?
Salut, ça va bien et toi ?
Mais très bien. Le CREPSI, on redit un petit mot rapide.
Donc moi je bosse pour l'antenne Lorraine, donc du centre ressources handicap psychique Grand Est.
Alors je le disais, aujourd'hui on va parler du bien-être chez les jeunes, très large sujet, un sujet très actuel également. Et pour ce faire et pour nous accompagner, on a le plaisir d'accueillir à nos côtés Cynthia Glantz. Bonjour Cynthia.
Bonjour Thomas.
Je me trompe pas dans la prononciation
de votre nom ? Non, c'est
très bien. Très bien. Vous êtes vous cadre de santé au CMPEA de Toul. CMPEA, on peut dire un...
C'est un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. Donc on prend en charge tous les enfants ou adolescents qui ont un trouble mental.
Très bien, donc vous allez nous accompagner sur cette émission. Et puis également Maxime Lombard, vous êtes cadre de santé transversale, pour ne pas dire de bêtises, au CPN sur le secteur de Toul et Pont-à-Mousson, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Ravi de vous accueillir également. Pareil, donc j'imagine une mission très transversale, un petit mot sur votre mission ?
Oui, alors voilà, sur le pôle de Pont-à-Mousson et Toul, donc on est plus sur la promotion de la santé mentale, hein, c'est un peu ce qui nous amène aussi ici dans ce cadre, et mes missions plus spécifiquement, ça va être d'accompagner divers projets, que ce soit des projets d'unité, que ce soit la création de liens avec des partenaires de la ville ou... Ce genre de mission.
Bon, et ben on est ravis de vous accueillir tous les deux. Je le disais, donc la thématique aujourd'hui, le bien-être et la santé mentale finalement chez les jeunes. Vous le savez, chaque mois pour démarrer cette émission, on est allé interroger les gens dans la rue. Trois questions leur ont été posées. Marie-Paul, c'est vous qui nous donnez
la première question c'était pour vous. Qu'est-ce que le bien-être mental chez les jeunes ?
Et ben on écoute les réponses tout de suite.
Le bien-être mental chez les jeunes, je pense, c'est de voir des amis, de sortir, de ne pas se désociabiliser, de rester chez soi, de ne pas rester sous les écrans, voir des gens, ne pas rester seul, quoi, on va dire. Voir des amis, faire des activités, un peu tout ça.
La sérénité.
Pour moi, c'est le fait d'avoir confiance en soi, déjà, je trouve que c'est important, et puis de bien gérer les interactions qu'on a avec les autres, parce que c'est pas toujours facile.
Ça peut être la météo, ça peut être les relations. Des contacts, évidemment, beaucoup de contacts. Autre chose que leur téléphone portable sans arrêt, parce qu'ils sont complètement là-dedans. Bouger, faire des activités que nous faisons dans le temps, du plein air, des machins, qui sont beaucoup plus, y compris en ville, pourquoi pas. Et puis beaucoup de contacts, quoi, entre eux, avec des adultes, avec tout ça. Il y a peut-être d'autres choses, mais ça ne me vient pas à l'idée pour l'instant.
Waouh, très belle question. Le bien-être mental chez les jeunes, je pense que c'est déjà d'être bien entouré, d'avoir des bons amis, une bonne famille sur qui compter. Et je pense que ça passe par un bon quotidien, enfin avoir une belle hygiène de vie pour avoir une belle hygiène de vie.
Pour moi, le bien-être mental, c'est pas quelque chose de défini, c'est propre à chacun, mais c'est à partir du moment où la personne est heureuse dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle réalise.
Le bien-être mental chez les jeunes, c'est quelqu'un qui se sent bien dans sa vie, qui est à l'aise dans ses études, dans sa famille, et voilà, qui prend du plaisir à vivre tout simplement.
Bon, il y a beaucoup de réponses, des réponses qui peuvent être parfois peut-être un peu stigmatisantes, on en reparlera ensemble. Est-ce que les écrans, par exemple, le téléphone portable, sont des choses qui jouent contre le bien-être et la santé mentale ? Marie-Paul, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on entend ?
Je voudrais déjà, en préambule, essayer de rappeler ce que c'est qu'est-ce que c'est les jeunes. Les jeunes, la conception la plus courante, c'est la tranche d'âge 15-24 ans, en tout cas selon l'ONU. Et c'est variable selon les cultures, ça peut durer un petit peu plus longtemps. En tout cas, c'est la transition entre l'enfance et l'âge mûr. C'est la période où on se construit. Et c'est pour ça que le bien-être mental pendant la jeunesse est important, parce que c'est comme les fondations solides sur lesquelles on va construire sa vie, comme qu'on on bâtit une maison avec de fondations solides pour éviter des problèmes plus tard. Alors, dans les réponses à la question qu'on vient d'entendre, finalement, on a la description d'une situation idéale, le bien-être mental. On constate que les éléments matériels ne sont pas tellement mentionnés comme facteurs de bien-être mental. Au contraire, il y a même des choses qui peuvent être mauvaises pour ça. Par exemple, les réseaux sociaux, fameux réseaux sociaux, et le téléphone portable. Parce qu'ils risquent de favoriser la solitude, qu'il faut éviter, en restant sur les écrans tout le temps, comme dit quelqu'un. Le téléphone portable est vu comme un obstacle plutôt que comme un facilitateur pour les contacts avec les autres. Ça, c'est finalement le point de vue des personnes qui ont été interrogées. D'après les voix qu'on entend, ce sont peut-être plutôt des adultes. Alors que les relations avec les autres sont vraiment primordiales pour connaître le bien-être mental. C'est ce qui ressort vraiment des réponses entendues. Être bien entouré de famille et d'amis, et même de bons amis sur qui on peut compter, ne pas se désocialiser, avoir beaucoup de contacts, voir des gens de tous les âges et se sentir bien dans sa vie, ses études, bien gérer les relations qu'on a avec les autres. Quoi. Il faut être bien dans sa société. Quoi. Et les conditions de vie sont importantes aussi. Alors il faut bouger, faire des activités, avoir un bon quotidien, une belle hygiène de vie, et être heureux dans ce qu'on fait et qu'on réalise. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Et pour résumer, même si, comme dit une dame qu'on entend, c'est propre à chacun, la définition, il n'y a pas de recette universelle, finalement. En tout cas, il faut avoir de la sérénité, de la confiance en soi, c'est important, et prendre du plaisir à vivre. Finir sur cette expression, c'est super. Au fond, chacun d'entre nous, quel que soit son âge, aimerait pouvoir en bénéficier.
On est d'accord. Vous réagirez tout à l'heure, je parle à nos invités, sur ce qu'on a entendu. Évidemment, ça va être la base de notre discussion. La deuxième question qu'on est allé poser aux gens dans la rue.
Est-ce que les jeunes vont mieux ou moins bien ?
Je pense que les jeunes vont de moins en moins bien, avec toute l'actualité qui peut être assez déprimante. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on a des doutes en l'avenir. Et pour moi, je trouve que d'une manière générale, les jeunes vont de moins en moins bien.
Moins bien. À cause des réseaux sociaux, il y a plus de suicides chez les jeunes.
Je pense qu'ils vont ni mieux ni moins bien. Je pense qu'ils vivent différemment de peut-être de mon époque. Mais je pense pas qu'ils soient mieux ou moins bien. C'est différent.
Pour moi, ils vont moins bien maintenant. Surtout par rapport aux médias, aux informations, parce qu'on est beaucoup plus touché par ce qui se passe dans le monde et on est beaucoup plus informé qu'avant et donc on est moins dans une sorte de déni et du coup on est plus touché et donc ça va moins bien mentalement et ouais, on est plus impacté par tout ce qu'il y a dans le monde et même des problèmes d'adultes qui nous arrivent dessus très rapidement, on va dire.
Je pense qu'ils vont un petit peu moins bien, je trouve. Parce que comparé à avant, les jeunes, ils jouaient entre eux, ils sortaient, ils se voyaient entre amis. Maintenant, ils restent que chez eux, sur leur tablette. Je sais pas, même par exemple, quand vous allez quelque part, dans n'importe quel endroit où vous allez manger, on commande plus directement à la personne, directement au comptoir. On est sur des bornes, c'est plus chacun pour soi maintenant. On va dire l'humain, il n'existe plus trop, je trouve. C'est plus comme avant, je trouve.
Je pense qu'ils vont mieux. Il y a eu une certaine période, il y a quelques années, où c'était un peu compliqué avec, je pense, tout ce qui est arrivé, Covid, tout ça. Mais là, ça va mieux, je pense. En tant qu'étudiant, là, on sort plus, on est plus ensemble. Donc, je pense que ça va mieux.
Je pense qu'ils vont mieux dans le sens où on y fait plus attention aujourd'hui qu'auparavant. Il y a pas mal de suivi là-dessus. Et du coup, justement, on a l'impression que les jeunes vont moins bien parce que la parole, elle se délie. Donc, du coup, c'est surtout lié à ça, je pense.
Ils sont différents. Ah, parce que moi, j'ai des enfants qui... J'en ai un qui va avoir 40 ans, le deuxième à 34, 35. C'était différent. Maintenant, les jeunes sont beaucoup plus cool, beaucoup plus investis, ils savent ce qu'ils veulent par rapport à nous qui avons travaillé beaucoup plus tôt qu'eux et qui subissons un peu. Maintenant, les jeunes veulent plus se laisser faire, ils veulent d'autres choses, une autre vie. Et ça, c'est formidable. Ça, ils se battent et c'est bien. Mais bon, il y a le côté négatif aussi, c'est qu'on ne sait pas trop où on va dans ce monde-là et qu'il y a peut-être des choses qui vont encore changer à leur niveau et qui seront plus ou moins bonnes. Du positif et du négatif, hein, malheureusement. Mais bon, on souhaite un bel avenir. Hein. Un plus bel avenir.
Alors j'ai l'impression quand j'écoute là que l'impact de ce qui nous entoure, de la société, a un rôle sur le mieux ou moins bien de l'état de la santé mentale chez les jeunes.
Oui, alors ça c'est sûr, hein, mais... J'ai pas pu tout aborder dans mon débrief parce qu'il y a beaucoup de choses, mais j'en aborde déjà pas mal. Donc, ce qui est intéressant de cette question de savoir si les jeunes vont moins bien ou mieux, les réponses sont très variées. Il y a 4 personnes qui nous disent moins bien, une interviewée qui nous dit ni mieux ni bien, 2 autres qui disent mieux et une qui dit que c'est différent de nous. Mmh. Bref. Mais une des raisons apportées par les enquêtés serait, comme tu dis Thomas, l'actualité, les médias. Mmh. Surtout car anxiogène et aussi en accès direct maintenant sur tous les téléphones. Hein. Oui. Donc quel que soit l'endroit où on se trouve d'ailleurs. Donc quid des réseaux sociaux et de leur cortège de nouvelles pouvant être stressantes pour les jeunes qui les consultent. Avec là aussi également le problème des fausses informations. Mais bon, ça touche tout le monde, hein. C'est pas que les jeunes. Ce qui impacterait les jeunes seraient les problèmes d'adultes qui généraient de l'angoisse, comme l'éco-anxiété, Raptor Neuropsy représenterait bon nombre de jeunes. Mmh. Aux États-Unis, selon Raptor Neuropsy, 70% des personnes ont rapporté être inquiètes face aux dérèglements climatiques et 60% expriment une impuissance face à ce phénomène. Aussi, la moitié des adolescents américains évoquent de la peur, de la colère. Leur souhait serait que les écoles s'investissent plus sur cette thématique. Donc face à cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, c'est un avenir quand même très incertain qui les entoure, même à court terme, hein, nous dit une autre personne. Une autre chose abordée, c'est le suicide des jeunes, qui est évoqué comme allant en augmentation selon une interviewée. Mais je suis allé voir les chiffres de l'adresse et apparemment, ce n'est pas si clair que ça. Mmh. D'après l'adresse, du coup, chez les jeunes, le suicide constitue la deuxième cause de mortalité, mais c'est aussi la tranche d'âge dont le taux de suicide est le moins élevé, 2,7 pour 100 000 chez les moins de 25 ans, contre 13,3 pour l'ensemble de la population.
Ah, en effet, oui.
Et c'est des chiffres du 25 février 2025, donc c'est très actuel. Et par contre, il est 4 fois moins élevé qu'en population. Il est donc parfois 4 fois moins élevé qu'en population générale, cela toujours selon l'adresse, bien que les jeunes femmes demeurent la population chez qui le taux de suicide est le plus faible, bien qu'il ait augmenté de près de 40% entre 2020 et 2022. Donc, il a beau être très faible chez les jeunes, mais chez les jeunes femmes, ça explose. Hein, mais ça reste toujours marginal par rapport à la population générale. Donc, le Covid étant passé par là, donc on peut se poser cette question-là, hein, bien sûr. Mais une autre personne, manifestement quelqu'un d'assez jeune, nous dit que la cohorte de jeunes, ici des étudiants, je pense, qui ont été interviewés, nous dit qu'ils vont mieux, qu'ils sortent davantage, qu'ils sont plus ensemble, qu'ils se voient plus, etc. Donc les jeunes ont, à mon avis, une résilience quand même assez forte, hein, parce qu'après Covid, c'était très dur pour eux. Certains interviewés nous disent, ça va mieux quand même, manifestement.
On ressort, on retrouve les amis.
Alors, il était aussi évoqué un biais, donc on ferait plus attention à la santé mentale des jeunes qu'avant Covid, parce que la parole se délie, donc une visibilité plus présente sur la santé psychique des jeunes. Peut-être qu'elle allait peut-être pas très bien non plus avant.
Oui. Et maintenant, on en parle.
On en parle, c'est devenu dans le langage courant, quoi, les médias. Et donc, pour certains, ça va mieux, pour d'autres, ça va moins bien, et enfin, statu quo pour les autres. Peut-être que de voir de quel côté on se place, que ce soit de la place des jeunes eux-mêmes, des parents actuels de ces jeunes ou des parents de ces parents, on peut dire que ça dépend vraiment du prisme et du côté où on observe les choses, hein, avec tout de même un avenir pour le moins incertain pour les jeunes générations.
Lié à tout ce qui nous entoure, on l'entend beaucoup. Ouais. Voilà. Merci Romain. Je vous propose qu'on écoute maintenant la troisième question et les réponses à la troisième question qu'on est allé poser aux gens dans la rue, Marie-Paul.
La troisième question, c'était de demander aux gens... Alors, pour ceux qui ne vont pas très bien, pour les jeunes qui ne vont pas très bien, de quoi ont-ils besoin pour aller mieux, selon vous ?
De quoi ont-ils besoin ? Sortir, voir du monde. Le côté humain, beaucoup le côté humain. Il n'y a pas que les jeunes, même les gens d'un certain âge, il n'y a plus de sourire, les gens ils regardent droit devant eux, ils regardent par terre. Il n'y a plus trop l'humanisme qu'il y avait avant, je trouve. L'humanité, je ne sais plus comment on dit, mais voilà. Vous m'avez compris, quoi.
Avoir plus d'amis, être plus dans la réalité, sortir, se rencontrer et pas être juste sur les réseaux.
Peut-être davantage de prévention sur tous les risques justement liés aux réseaux sociaux, à cette pression que les réseaux peuvent mettre. Je pense, c'est ça. Il faudra un peu de prévention à l'école, au collège, pour apprendre à utiliser les réseaux, à s'en méfier. et à être moins dépendant.
Peut-être avoir une pression sociale moins forte, on va dire, laisser plus le temps aux jeunes d'arriver dans la vie active, de prendre leur temps et d'éviter de leur mettre la pression sur des choses tout de suite comme le monde du travail ou des choses comme ça.
Plus d'écoute des parents et de la société en général.
De ne pas rester collé sur le téléphone ou l'ordinateur.
Pour aller mieux, je pense que si on avait la réponse, tout le monde irait mieux, mais non, franchement, je sais pas. Je dirais c'est peut-être d'avoir une vision plus claire de l'avenir pour mieux appréhender les choses et peut-être moins avoir peur du futur.
Pas mal de réponses encore une fois, mais les réseaux sociaux, ça revient beaucoup.
Ah, ça revient beaucoup. Alors, on en revient en partie dans ce qu'on vient d'entendre, aux réponses à la question sur la définition de la santé mentale chez les jeunes. Ce qui est important, c'est d'avoir une vie sociale développée, d'éviter la solitude, avoir plus d'amis, sortir, se rencontrer, éviter les réseaux sociaux, on y revient. Pour être dans la réalité, ça veut peut-être dire être plus conscient de ce qui les entoure, pour mieux en apprécier les bons aspects, probablement. Donc pour se sentir mieux, il faut déjà éviter ce qui a un impact négatif sur le sentiment de bien-être. Faire de la prévention, on entend faire de la prévention, c'est-à-dire apprendre aux jeunes à gérer les caractéristiques du monde actuel, à savoir les fameux réseaux sociaux, apprendre à s'en méfier, on entend, car les réseaux sociaux mettent beaucoup de pression, la fameuse peer pression,
pression sociale
des pairs, sur leurs utilisateurs. Il faut aussi apprendre à en être moins dépendant, s'en détacher de ces réseaux sociaux, pour avoir une pression sociale moins forte, c'est-à-dire apprendre à utiliser son propre jugement. Comme le disait une personne interviewée déjà dans la question 1, avoir de la confiance en soi. En somme, tout ça, c'est pour aider les jeunes à devenir des adultes autonomes. Dans les réponses à cette question-là qu'on vient d'entendre, il est question du monde du travail aussi. Plus clairement, il faut laisser les jeunes mûrir à leur rythme, prendre leur temps d'arriver dans la vie active, dit une dame, afin qu'ils puissent réaliser leur potentiel. Et tout ça, ça relève de la responsabilité de la collectivité qui fixe les règles. Du reste, quelqu'un dit que les parents et la société en général devraient être plus à l'écoute. Est-ce qu'on peut dire que les adultes ne sont pas assez à l'écoute ?
C'est sans doute une question qu'on va se poser.
Ce que vous nous en pensez. Et pourtant, chaque année, depuis 1999, on célèbre le 12 août la journée internationale de la jeunesse de l'ONU. Et pratiquement toute la vie, tous les aspects de la vie des jeunes sont évoqués, avec des plans, des propositions pour améliorer tout ça. Voilà, donc on espère que ça contribuera finalement à terme à renforcer les meilleures conditions de vie possibles pour préserver le bien-être mental des jeunes.
Voilà, avoir un meilleur bien-être mental chez les jeunes. On va évidemment rediscuter de tout ça ensemble dans quelques instants. Je vous poserai évidemment la question de savoir pour vous, d'abord, c'est quoi le bien-être mental chez les jeunes. C'est peut-être la première question qu'il faut qu'on se pose. Je vous propose qu'avant, on écoute Gims. Je crois que c'est vous qui l'avez choisi, ce titre, Cynthia.
Oui.
Pourquoi ? Je sens qu'il vous met de bonne humeur.
Oui, parce que c'est des moments partagés avec mes enfants qui nous rendent joyeuses. Donc,
qui font du bien.
Voilà, qui font du bien.
Et bien, on écoute tout de suite Gims avec Ninao sur RCN dans l'émission Full Santé Mentale.
Maximum. Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça, t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douanière, rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, amale, 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 amale,
10h, 11h.
Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et ce matin, on parle du bien-être mental chez les jeunes avec nos invités. Cynthia Glantz, je rappelle que vous êtes cadre en santé, on dit cadre de santé, pardon, au CMP Enfant. Adulte,
adolescent,
de Toul. Et vous, Maxime Lombard, vous êtes cadre de santé transversale au CPN pour le secteur Toul-Pont-à-Mousson. Alors, puisqu'on parle du bien-être mental chez les jeunes, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, vous définiriez ça comment? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses dans les micro-trottoirs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Pour vous, ce serait quoi? Je commence peut-être par vous, Cynthia.
Oui, après, on a des définitions un peu pré-écrites par l'OMS, où la santé mentale est définie comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, c'est vrai que c'est, si on dit ça aux jeunes, effectivement, ça semble pas très concret.
C'est une belle définition, la rousse pour eux, mais c'est pas quelque chose qui leur parle dans la vie,
quoi. Exactement, c'est pas quelque chose qui leur parle. Moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Marie-Paul sur le fait que le besoin de l'un n'est pas le besoin de l'autre. À partir du moment où on arrive à se construire et être autonome dans sa vie future, être capable de prendre des décisions, voilà, de ce qui est propre à chacun, en fait. C'est la manière dont nous, on se sent, voilà.
C'est quelqu'un disait dans le micro-trottoir, d'ailleurs, c'est être heureux dans ce qu'on fait.
Exactement.
Ça serait une belle définition, en tout cas, ça se rapprocherait, oui.
Parce que, voilà, le côté avec succès et de manière productive, chacun, à un moment donné, peut contribuer à la communauté, à la société, en fonction de ses capacités propres, en fait, finalement, et que chacun a des atouts et des limites, et effectivement, c'est l'ensemble qui fait la cohésion de la société.
Et puis, il faudrait réussir à définir ce qu'est le succès, parce que le succès n'est peut-être pas le même selon qui on est non plus.
Exactement.
Je me tourne vers vous, Maxime, votre définition à vous du bien-être mental chez les jeunes.
De toute façon, on s'appuie sur les mêmes ressources, mais ce qui est intéressant dans cette, derrière son caractère de définition pure et dure, c'est vraiment qu'elle renvoie à l'individu, en fait. Il n'y a pas de pression exercée derrière cette définition, puisqu'elle parle de réaliser son potentiel, donc un potentiel qui va correspondre à la personne, de faire face aux difficultés normales de la vie, parce qu'on considère qu'on est tous confrontés à des difficultés. La notion de normal est intéressante, hein, parce qu'on parle d'événements finalement assez ordinaires. Le fait de travailler avec succès de manière productive, une fois de plus, ça renvoie vers l'individu. Il faut qu'il ait le sentiment, lui, d'être productif dans ce qu'il fait. Donc, on n'implique pas de réussir, de faire carrière ou de je ne sais quoi. On implique que lui a un sentiment d'être productif. Et ça, ça renvoie à des traits qu'on a tous en tant qu'humain. Peu importe ce qu'on fait, si on se sent productif, ça vient favoriser une bonne santé mentale. Et le fait d'apporter une contribution à la communauté, une fois de plus, on ne parle pas de ça d'un point de vue politique ou autre, c'est que l'individu a l'impression d'être inscrit dans une communauté et a l'impression d'être important ou considéré dans la communauté, mais communauté qu'il aura choisi, qu'elle soit étendue ou très petite, peu importe, tant qu'il a ce sentiment, parce qu'on est tous des créatures sociables, on a besoin de communiquer, on se forge aussi par rapport au regard de l'autre, etc. Donc les implications, elles se situent là.
C'est bien beau, c'est dans l'idéal tout ça, mais on a quand même l'impact de ce qui nous entoure, de la société qui nous entoure, ce qu'on nous renvoie aussi du succès ou justement de la communauté. Comment on arrive à se situer personnellement par rapport à ça? C'est difficile aujourd'hui. Nous, adultes, déjà, c'est pas simple. Mais quand on est jeune, qu'on sort de l'adolescence, Marie-Paul disait, je crois que les jeunes, c'est 15-24 ans, c'est ça, Marie-Paul? À 15 ans, c'est difficile encore d'accepter qu'on est un individu et qu'on a le droit de pas s'inscrire dans quelque chose de sociétal.
Finalement, chaque individu crée son propre référentiel par plusieurs sources, finalement. Il y a l'éducation avec qu'on reçoit de nos parents, il y a ce qu'on apprend à l'école, il y a nos lectures personnelles, si on a un attrait pour la lecture. On a ce que les discussions qu'on a auprès de nos pères, nos camarades, notre entourage, ceux qui font du sport, il y a aussi prennent des avis sur ce qui se passe ailleurs. Finalement, il y a les médias, bien sûr. Donc finalement, chacun crée son propre référentiel en fonction de différentes sources. et certains auront plus d'impact sur d'autres. Finalement, c'est ce qui crée le caractère unique de chaque personne, en fait, finalement.
Moi, j'avais peut-être un truc à dire. Oui, excuse-moi, Maxime.
Bien sûr.
C'est une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que, en fait, aller bien, ce serait, pour un jeune, par exemple, ce serait réussir à se servir de ses ressources pour combattre ce qui arrive et aller mieux, quoi, aller vers du mieux-être, mais en se servant des ressources qu'on a en soi, quoi. Enfin,
alors, pour rebondir, si on parle d'aller bien, il ne faudrait pas avoir à combattre. C'est-à-dire que les ressources permettent, on va dire, d'assimiler ou de passer à côté les difficultés qui peuvent se présenter. Parce qu'on sera tous soumis à des difficultés. Après, ce qui fait qu'on s'en sort plus ou moins bien, c'est notre capacité, effectivement, à y faire face à un instant clé. À partir du moment où on considère qu'on est dans un combat, c'est que déjà, il y a un impact stressant qui peut s'inscrire dans un temps long, etc. Et finalement, juste pour revenir aussi à ce que vous disiez avant, il y a un sujet sur les jeunes vont forcément être confrontés à un climat social qui va exiger un certain nombre de choses d'eux et qui véhicule certaines idées de réussite. Si dans la définition du bien-être, on renvoie sur l'individu, c'est pas forcément ce que véhicule la société. On est encore dans des schémas, il faut que tu fasses carrière, que tu gagnes de l'argent pour être bien. On est encore dans des formes d'injonction au bonheur, d'ailleurs, où on implique qu'il faut tout le temps être heureux, etc. Ça, c'est encore des tendances qui sont extrêmement anxiogènes, en fait. Sauf que chez le jeune, en fait, on a cette confrontation de la définition de ce qui sera sa personnalité, de ce qu'il veut faire dans la vie, et cette confrontation avec ce que la société essaye de faire passer, enfin, lui met comme pression. Et en fait, il y a tout un enjeu de réussir à passer outre cette pression pour se structurer suivant ce que lui veut.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas développer un peu ce que veut dire productif dans la définition que vous avez donnée tous les deux.
Oui.
Parce que productif, pour certains, ça va être créer quelque chose de matériel, d'autres, ce sera immatériel, etc. Donc, c'est chez chaque adolescent ou jeune adulte, ça va être différent, quoi. Enfin,
oui.
De ce qu'on entend. Puis moi, j'entends peut-être pas. De la même manière que vous deux, ce que veut dire productif et...
Mais c'est comme la réussite, Exactement. C'est pareil, le succès, la réussite, tout le monde l'entend pas de la même manière. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, je crois, Cynthia, de dire qu'en... Et puis vous aussi, Maxime, c'est de dire qu'il faut l'individualiser, finalement.
Exactement. On a des ressources externes, et après, nous, on individualise, on intériorise, et on crée notre propre référentiel qui nous sert à prendre ensuite des décisions, à faire face aux difficultés de la vie. Une difficulté que je peux rencontrer ne sera peut-être pas une difficulté pour mon collègue. Je veux dire, chacun, face à une même situation, ne réagira pas de la même manière.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu justement sur l'impact sociétal. On a beaucoup entendu parler des réseaux sociaux, de l'impact de l'écran. Aujourd'hui, vous qui êtes professionnel, qui intervenez auprès de ces publics-là, est-ce que vous voyez qu'il y a une évolution dans la jeunesse liée à ces réseaux sociaux, à ces écrans?
Alors, oui, effectivement. Que ce soit chez les enfants ou les adolescents, on voit qu'ils sont de plus exposés aux écrans de manière directe ou indirecte, puisque notre société a évolué vers les écrans. Finalement, maintenant, on fait tout sur téléphone, sur Internet. Même regarder nos impôts, on ne fait plus les impôts sur le papier. La société a évolué, n'a pas pris en compte les facilités ou les difficultés de la population, parce que finalement, les jeunes ont peut-être plus de facilité à manipuler ces outils-là, et des personnes âgées qui se retrouvent complètement démunies parce qu'ils n'ont pas appris à évoluer aussi vite que la société.
On peut donner l'exemple des relevés de remboursement de soins de santé qui sont de plus en plus dématérialisés. Quand vous êtes une dame très âgée, sans aucun accès à Internet, etc., comment vous faites pour savoir? C'est pas prévu du tout. On passe en force là-dessus.
C'est ça.
Est-ce que les jeunes, par contre, seraient pas plus vulnérables que les personnes adultes face aux écrans?
Bah, en fait, à mon sens, il faut aussi voir comment ça a évolué. Ça veut dire que je ne pense pas être si âgé que ça. J'ai l'air de rien. Je me suis toujours dit, quand je dirais à ma fille que j'ai connu un monde sans Internet, elle me verra comme un vrai dinosaure. Parce que finalement, ces évolutions, elles ont eu sur un temps très court, auquel on n'a pas forcément eu le temps de s'adapter. Les réseaux sociaux, pour citer l'un des plus vieux, Facebook, etc., sont arrivés avant que... les jeunes s'en sont saisis très vite, bien avant que les adultes comprennent un peu leur code ou leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une régulation a posteriori ou de préparation. Et ça a profondément changé aussi la manière dont on fonctionne, mais pas que les jeunes, les adultes aussi, parce qu'en même temps que les réseaux sociaux, il y a eu donc les avancées d'Internet, la notion d'immédiateté de l'information qui a dérivé vers on ne cherche plus que de l'information courte, là où avant on achetait des journaux, etc. Et en fait, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça qui a profondément changé la manière aussi dont la société se comporte maintenant. Et ce qui se passe, c'est que personne n'y a été préparé à ces avancées technologiques. Donc, elles n'ont pas été anticipées ni pensées d'un point de vue, aussi impact quelque part psychologique.
Ça a été plus un effet de mode, comme un effet de mode, toujours allé vers la mode.
Et avec une accélération, est-ce qu'il n'y a pas une accélération aussi au moment du Covid ? Parce qu'effectivement, d'un seul coup, beaucoup de choses ne peuvent plus se faire que par l'écran. Et on l'entend dans le micro-trottoir, quelqu'un qui dit à un moment donné, même pour passer commande dans un restaurant aujourd'hui, on passe presque plus commande à quelqu'un de physique, mais à son téléphone.
C'est ça.
Ah oui. Le lien social, fondamentalement, il a été impacté pour tout le monde, qu'on soit jeune, petit, grand, âgé. Le lien social, il est forcément perturbé.
Mais est-ce que les codes n'ont pas été finalement plus durs à assimiler par les jeunes qui, finalement, quelque part, n'ont pas connu, je vous paraphrase Maxime, mais qui n'ont pas connu l'époque des dinosaures où on n'avait pas d'Internet, pas d'écran. Et donc, quelque part, on peut se positionner aussi par rapport à cette période-là, alors que pas, en fait, pas.
Non, parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. Ça a été effectivement leur quotidien. Ils sont nés avec ce mode de fonctionnement, en fait. Ce qui peut arriver, c'est aussi ça, c'est que il y a eu une structuration autour de ça. Je veux dire, en tant qu'être humain, on a un cerveau qui a une capacité à s'adapter à ce à quoi il est confronté. Le fait de vouloir une information mais de pas l'obtenir immédiatement, on a été conditionné au fait qu'on veut une information, on va chercher une encyclopédie, ça prend du temps, ça coûte de l'énergie, c'est un investissement. Maintenant, ceux qui sont nés entre guillemets avec Internet, ils veulent une info, téléphone, etc. Oui. Et donc, par contre, s'ils se retrouvent dans la situation où ils ne sont pas en mesure d'avoir une information, ça va en opposition avec leur fonctionnement habituel. Nous, ça nous renverra un fonctionnement ancien, donc ce sera moins difficile
à accepter.
Tandis que eux, ça va en confrontation directe avec ce à quoi ils sont habitués au quotidien, ce qui peut déclencher une forme de mal-être ou de frustration moins bien gérée, mais c'est pas formulé comme une critique, c'est simplement parce que ils n'ont pas été habitués à la gérer de telle manière.
Et d'où la question, finalement, on l'entend d'ailleurs, quelqu'un qui dit peut-être il aurait fallu prévenir ou mettre en place des choses pour permettre aux jeunes d'être formés, parce qu'en fait, finalement, ces outils-là, il faut savoir les utiliser, quoi.
C'est exactement. Après, il y a des choses qui commencent à évoluer dans les collèges, puisque maintenant, les centres de documentation font justement des cours, des formations sur l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, les limites, comment on l'utilise, les sujets sur quoi il faut être vigilant. Donc, je pense qu'on évolue tardivement par rapport à l'arrivée massive d'Internet, des réseaux sociaux. Mais en tout cas, on essaye de trouver des adaptations pour, entre guillemets, limiter la casse, on va dire. Et puis, justement, réarmer ces jeunes pour la suite.
Donc là, on voit un peu quelque chose qui peut avoir un impact un peu négatif sur le bien-être de la santé mentale, en santé mentale chez les jeunes. En revanche, on entend des gens qui parlent de, pour mieux aller, l'hygiène de vie, bouger, voir du monde... Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? Est-ce que c'est ça, les ingrédients pour le bien-être en santé chez les jeunes ?
C'est des ingrédients qui sont assez généraux, mais qui sont effectivement des bons ingrédients. Mais ça, c'est valable que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour tout le monde. Le respect d'avoir une bonne hygiène de sommeil, une bonne hygiène alimentaire également. Il y a plusieurs études là qui viennent et qui prouvent aussi qu'il y a un impact direct sur notre alimentation et notre santé mentale. Après, ça, c'est des perturbations. Si on doit faire un parallèle avant-après, c'est des perturbations qu'on tout le monde a traversées au même âge. Mais ça reste des bonnes règles d'hygiène.
Après, l'activité physique, effectivement, de fait, on en fait moins parce que moi, je ne suis pas ancienne non plus, j'ai connu où on s'amusait dehors, où on courait et finalement, on était toujours soumis à de l'activité physique. C'était indirect, ce n'était pas vraiment le sport comme on l'entend aujourd'hui. Mais en tout cas, l'activité physique, elle était quand même là. Faire des tours de vélo, c'était amusant. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça amuse peut-être moins les jeunes d'aujourd'hui. Et du coup, il faut effectivement voir comment on peut trouver une alternative pour qu'ils puissent quand même maintenir ce bel...
Maxime, vous vouliez réagir.
Oui, parce que quelque part, je me dis, là, on parle et on cible les jeunes, mais avant les jeunes, il y a aussi également les parents.
Oui.
Et cette bascule, elle s'exprime aussi chez les parents. Quand on parle que la population est de plus en plus sédentaire, moins mobile, fait moins de sport, etc., bah forcément, on a des jeunes qui structurent aussi suivant ces schémas-là. Parce que tout ça, c'est des modèles qui sont transmis, en fait, qui sont transmis. Et donc, si on a cette habitude ou si on a des cultures, parce que si on est encore dans des systèmes où on a des parents qui organisent des sorties vélo régulières, etc., c'est des modèles qui sont inculqués chez des jeunes qui, en toute logique, continueront de les pratiquer à posteriori. Mais ce glissement, il s'exprime quand même et à plusieurs niveaux.
Est-ce que c'est toute classe confondue que vous observez ça ou... classe sociale confondue.
Cette bascule vers la sédentarité.
Ouais. Je ne sais pas. Hein,
Eh bien, c'est une très bonne question.
Ouais.
Parce que justement, après Covid, il y avait eu un truc qui disait que justement, les jeunes se remettaient au sport, les adultes se remettaient au sport. Il y a beaucoup d'activités physiques qui étaient en train de... Les clubs de sport et de foot et de basket se remettaient à avoir du monde. Après Covid, le badminton, etc. Et je me demandais si c'était toute classe confondue. Parce que peut-être que c'est une partie des gens et peut-être pas tout le monde non plus.
Après, moi, je mettrais quand même un bémol à ça parce que finalement, pendant le Covid, on avait quand même accès à beaucoup de contenus, influenceurs, Instagram, etc. Et finalement, c'est devenu comme une mode où on fait son sport devant la caméra et qu'on se donne des défis, des choses comme ça. Donc, effectivement, peut-être que l'après-Covid a fait que finalement, ça a continué dans ce sens-là parce que, de fait, on était sédentaire à la maison.
Mais si je reviens sur un certain nombre de choses qu'on vient de se dire, j'ai quand même l'impression que le rôle des parents au départ est important aussi pour construire une bonne santé mentale à ses enfants.
De bonnes bases solides.
De bonnes bases, oui.
Oui, effectivement.
On est sur le principe, dans la parentalité, de donner les clés. Hein. On parlait, je prends l'exemple dans la définition, faire face aux difficultés normales de la vie. Les enfants vont se structurer. Alors, Cynthia l'avait dit au tout début, il y a plusieurs paramètres. Hein. Il y a la société, il y a les groupes sociaux, il y a l'école, etc. Mais évidemment, il y a aussi l'éducation qui joue un rôle important, mais pas qu'important, essentiel. Sans vouloir être à l'enfance, on est un bébé qui naît, c'est un paquet de neurones, un paquet de neurones qui ne demande qu'à être développé. C'est-à-dire que les bébés ont beaucoup plus de neurones que nous, et en fait, en fonction de ce qui est stimulé ou sollicité, ils vont faire du tri, développer certains réseaux, en supprimer d'autres parce qu'ils ne sont pas sollicités. Et toute la période de l'éducation et de l'enfance contribue à développer en fait ces fonctionnements cérébraux. Et donc, ils se développent comment ? Parce qu'on a des zones qui sont stimulées par mimétisme, en observant, etc. Donc, c'est là que l'éducation joue un rôle majeur parce que tout l'apprentissage passe par là. C'est pour ça que je revenais sur les parents qui font du sport ou quand on dit que les jeunes maintenant ne lisent plus, mais ils ont aussi des parents qui sont sur leur téléphone portable.
Oui, c'est vrai.
Donc, pourquoi ils se mettraient à lire alors que ça n'a jamais été induit comme une espèce de logique, etc. Et du coup, cette capacité à affronter les problèmes, normalement, à un moment donné, elle est aussi inculquée par les parents qui doivent apporter ce côté de « là, tu as une problématique, en gros, tu as deux choix, soit tu te mets à stresser et tu paniques, soit tu essayes d'analyser rationnellement la situation et tu envisages les possibilités. » Et ça, c'est un développement qui a lieu pendant toute l'enfance, l'adolescence, au quotidien, jusqu'à arriver à l'âge adulte où on a une construction de pensée... en réponse.
Alors, c'est pas simple d'être parent quand même aujourd'hui. Hein, je veux pas stigmatiser. D'autant que est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être parent qu'il y a quelques années encore en arrière, peut-être avant Covid, peut-être avant les écrans. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les parents à justement faire grandir leurs enfants avec les bases qui sont solides et qui leur permettront de développer un bien-être mental.
Forcément, il y a un impact parce qu'effectivement, je dis toujours à l'époque, hein, ça peut être il y a 10 ans comme ça peut être il y a 50 ans. Hein. La vie, elle coûtait aussi moins cher. Oui. Donc effectivement, les femmes pouvaient rester à la maison pour se consacrer à l'éducation des enfants et mener un ménage, faire aussi de l'éducation à la maison, etc. Et aujourd'hui, finalement, pour subvenir aux besoins de la famille, il faut que les parents... travail. Donc après, les femmes aussi aujourd'hui travaillent parce qu'il y a des évolutions sociétales, on est reconnu différemment.
Aussi, bien sûr, oui.
Et il y a aussi le lien social qui est très important pour se construire aussi. Mais effectivement, avant, on avait le choix Maintenant, avec le coût de la vie qui augmente, on se dit que c'est un peu une nécessité. Et on est toujours pressé par le temps. En fait, on a l'impression d'avoir 50 millions de choses à faire tout le temps. Et finalement, on va peut-être plus facilement à la facilité, plus par moment que d'autres. Mais en tout cas, on a quand même un rôle important en tant que parent de créer. Je parle toujours de référentiel parce que c'est vraiment propre à l'individu. Il prend vraiment les ressources qu'il a à disposition et il se crée sa propre image. Et effectivement, en fonction on pourrait prendre plus. Le seul conseil qu'on peut donner aux parents, c'est prendre peut-être plus le temps d'écouter, d'analyser les choses et pas toujours aller donner la solution directement pour que l'enfant ait le temps d'analyser par lui-même et justement solliciter ses propres ressources pour trouver des solutions.
Et créer des schémas de résolution de problématiques. Ouais.
Comme il parlait tout à l'heure par rapport au micro-trottoir sur le métier, finalement, effectivement, il faut leur laisser le temps de découvrir le monde et savoir...
On va en reparler dans un instant justement de ça, si vous voulez bien. On va y revenir dans quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est que là, on va écouter le titre de Linkin Park que vous avez choisi, Maxime. Dites-moi un petit mot sur ce titre.
J'ai choisi, bon déjà il passe beaucoup en ce moment et je l'écoutais dans la voiture juste avant d'arriver, mais je trouve qu'il y a une énergie qui s'en dégage, une fougue, un espèce d'aller vers l'avant comme ça, et je le trouvais ça très entraînant.
Et ben on écoute Linkin Park maintenant dans Full Santé Mentale sur RCN. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Going around like a revolver.
À 11h, Full Santé Mentale sur RCN.
avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et toujours en présence de Cynthia Glantz qui est cadre de santé au CMPEA, donc enfant adolescent de Toul, et Maxime Lombard, cadre de santé transversal au CPN pour le secteur de Toul-Pont-à-Mousson. Alors, depuis tout à l'heure, on aborde ensemble le sujet du bien-être en santé mentale chez les jeunes. Il y a une question, évidemment, on peut pas passer à côté de cette question. Il y a eu la période Covid, et on entend beaucoup que cette période Covid, elle a fait du mal aux jeunes. Est-ce que vous, de votre point de vue, les choses ont beaucoup changé? Est-ce que les jeunes vont moins bien? Est-ce que leur bien-être en santé mentale est impacté par cette période-là, ou est-ce que vous avez l'impression que globalement, ça n'a pas finalement changé grand-chose ? Cynthia.
Alors en fait, il y a une étude qui a été menée par la Sécurité sociale, le site Amélie. C'était l'étude Mentalo qui a été faite en 2022. Et finalement, moi-même, j'ai été étonnée des chiffres parce qu'on peint toujours un côté négatif au fait que les jeunes ne vont pas bien, les jeunes ne vont pas bien. Et puis finalement, quand on voit les résultats, on est plutôt étonnée. Il y a 86% des collégiens, 83% de lycéens se sont déclarés en excellente et en bonne santé.
Ah oui, donc ça reste un chiffre très élevé.
Ouais. Oui, avec une proportion de 90% pour les garçons et 80% pour les filles.
D'accord.
Donc de manière générale, les garçons perçoivent quand même plus positivement leur état de santé. Après, sur ce pourcentage qui vont moins bien, ce qui en ressort, c'est surtout le sentiment de solitude, la difficulté à s'endormir, la nervosité, l'irritabilité, des symptômes dépressifs et quelques comportements suicidaires aussi.
Ouais. Le suicide chez les jeunes, on en parlait tout à l'heure, Romain nous donnait des chiffres et a priori ce sont plutôt des chiffres rassurants.
Tu veux que je rappelle ?
Oui, et puis vous nous dire aussi de votre côté en tant que professionnel, quelle évolution vous y voyez ou pas. Redonne les chiffres, Romain.
Il est 4 fois moins élevé chez les jeunes qu'en population générale, c'est-à-dire 2,7 pour 100 000 chez les moins de 25 ans contre 13,3 pour l'ensemble de la population.
D'accord. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous pensez que les choses sont relativement stables, ou est-ce que vous voyez une évolution liée peut-être aux impacts? Et on peut en reparler, des impacts, on entend beaucoup les crises qu'il y a autour de nous, on le voit dans les médias, on le voit sur son téléphone portable. Est-ce que ça a un impact sur un mal-être et qui peut amener jusqu'au suicide?
Après, chez les femmes, les jeunes femmes, c'est
plus 40, important.
Plus 40% entre 2020 et 2022. Hein, donc c'est à relativiser quand même.
En fait, de manière générale, on a plus de tentatives de suicide chez les jeunes, mais moins de suicides. Parce que quand on parle de suicide, c'est un suicide abouti, qui arrive à son terme. Et c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus confrontés. C'est la tranche où il y a le plus de tentatives.
D'accord.
Mais la tranche où il y a le plus de suicides, il me semble, c'est au-delà de 45 ans. De mémoire. Donc, on est sur des chiffres a priori qui restent un peu stables, bien que toujours inquiétants. En fait, il y a le véritable enjeu derrière, c'est que le suicide a toujours été un enjeu majeur, mais étant un sujet tabou, on en parle finalement très peu. De manière générale, le suicide, c'est 10 000 décès par an. Ce qui est
quand même considérable.
Voilà, si on compare face aux accidents de la route, on est à 3500, maintenant, et on est parti de 17 000 avant qu'il y ait toutes les campagnes de prévention. Donc ça montre que s'il y avait un engagement similaire, on pourrait sans doute réduire ces chiffres. Voilà, maintenant, pour relativiser, chez les jeunes, on est plus chez des tentatives qui sont des expressions d'un mal-être. C'est-à-dire que le suicide n'est pas la finalité recherchée, mais c'est plus le besoin d'exprimer une émotion.
Ou d'échapper à un sentiment de mal-être difficile.
Ou d'échapper à un sentiment et qui semble insurmontable. Et ça refait lien avec ce que je disais plus tôt sur être confronté à des difficultés. Je parlais du développement du cerveau, c'est pendant l'adolescence. Je parlais un moment d'apprendre à relativiser, à rationaliser, etc. Et ben, c'est pendant l'adolescence qu'on développe nos capacités psychiques, mais d'un point de vue neuronal, qui nous permettent d'accuser l'émotion et de la rationaliser. Ce développement a lieu pendant l'adolescence en s'appuyant sur déjà de la confrontation à l'émotion brute et directe. Mais du coup, comme on n'a pas forcément ces ressources psychiques, la tentative de suicide peut être une expression face à une émotion qui apparaît insoutenable. Juste un point rapide pour revenir sur le Covid, il y a toujours la question qui se pose où en post-Covid, on a vu une augmentation de tout ce qui était troubles anxieux, troubles dépressifs d'un point de vue statistique. Mais c'est aussi parce que finalement, on s'est retrouvé à court de moyens de quelque part meubler une détresse psychique. Mmh. Quand on va pas bien, le premier réflexe, c'est d'aller voir du monde. Des fois, ça nous aide à aller mieux et des fois, ça vient aussi un peu différer le sentiment de mal-être. Dans le Covid, tout le monde s'est quand même relativement retrouvé tout seul ou face à lui-même et face à ses problématiques qui ne pouvaient plus être masquées par une quelconque activité.
Juste avant qu'on continue, mais revenir sur les tentatives de suicide, oui. Reprécisons quand même que c'est vraiment important de les prendre très au sérieux, quoi qu'il arrive.
Ah oui,
exactement,
tout à fait.
Il faut consulter des professionnels. Il y a même le numéro.
Le 3114.
Le 3114 qu'il faut rappeler aux jeunes, vraiment, s'ils éprouvent ne serait-ce qu'un mal-être, le dire.
Oui.
À toute personne qui pourrait l'accompagner, l'aider
eux-mêmes ou pour
quelqu'un d'autre.
Pour eux-mêmes ou pour autre.
C'est ce que j'allais dire.
Pour connaître un petit peu le 3114, il faut patienter au téléphone, rester jusqu'à ce qu'on réponde. Ça peut être un peu long, mais vous avez toujours des très bons conseils au 3114. Je sais qu'il y a des horaires qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'était bien de le repréciser. Pardon, je vous ai coupé, mais je voulais quand même qu'on revienne là-dessus. Ça me paraissait important.
Non. Et c'est en plus absolument essentiel parce que la tentative, enfin, le mal-être, il est absolument réel derrière. Il y a une idée reçue qui dit que les jeunes vont faire ça pour attirer l'attention. C'est absolument et complètement faux. Dans les études qui ont pu être faites à ce sujet, c'est un critère qui ne ressort jamais. Toute tentative doit être prise au sérieux.
Très au sérieux.
Et même si on est sur une tentative à un instant clé, la suivante peut être... toujours la considérer.
Elle peut mener au suicide à l'arrivée, donc une tentative malheureusement réussie.
Exactement.
Donc bien considérée.
Pour le Covid, on a aussi la question qui se pose, c'est aussi est-ce que le Covid nous a pas renvoyé face à notre santé mentale, justement, parce qu'on pouvait plus et que de fait, on a commencé à la considérer et que de fait, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas aussi bien qu'on le croyait. Parce qu'on parle d'une augmentation, de plus de mal-être chez les jeunes, etc. Mais finalement, ces jeunes qui vont pas bien maintenant, est-ce que ce ne sera pas des adultes qui iront bien plus tard peut-être, parce qu'ils se confrontent à leurs problématiques, parce qu'on parle quand même plus de santé mentale à l'heure actuelle.
J'allais vous dire, il y a aussi peut-être ça, c'est qu'aujourd'hui, parler de santé mentale, c'est un peu moins tabou aussi qu'avant le Covid. On dit plus facilement « Ah tiens, je vais voir mon psy », qu'on le disait avant. Avant, on disait « Je vais voir un médecin ». Maintenant, on entend beaucoup plus facilement « Je ne peux pas, j'ai psy ». Et ce qui est plutôt... Moi, je trouve ça plutôt très positif.
Tout à fait.
Malheureusement, on arrive déjà au terme de cette émission, mais j'aimerais quand même qu'on puisse se donner peut-être quelques ressources. Est-ce que je suis parent de jeune ou je sens qu'il y a un mal-être, ou bien je suis jeune et je me sens pas dans un bien-être, qu'est-ce que je peux faire, qui je peux aller voir? Est-ce que peut-être, Cynthia, vous aviez quelques infos à nous donner là-dessus?
Alors déjà, les jeunes peuvent s'adresser à leurs parents, à un membre de sa famille en qui il peut avoir confiance. Pour les professionnels de santé, il existe les CMP, les maisons des adolescents aussi, qui ont ouvert. Dans les collèges, il y a quand même aussi beaucoup de ressources, les infirmières scolaires, tout adulte travaillant dans le collège, le lycée, qui pourra relayer et apporter une aide. Aujourd'hui, les professionnels dans les écoles sont aussi de plus en plus formés à la santé mentale pour le repérage. Pour les jeunes, parce qu'on en a très peu parlé, mais c'est vrai que le harcèlement et le cyberharcèlement sont aussi très, très compliqués et de plus en plus visibles, faciles aussi. C'est aussi des attaques faciles, des violences. Les écoles, l'éducation nationale réagit beaucoup, puisqu'il y a les programmes phares. Il y a beaucoup de prévention qui se développe. Il nous a fallu du temps pour nous adapter après le Covid. On a, comme disait Maxime, on s'est recentré un peu sur la santé mentale de tout le monde et finalement maintenant on cherche des alternatives. Donc auprès des jeunes, en tout cas, il y a des ressources. Au niveau national, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont faites. Donc j'invite tout le monde à aller voir Santé Publique France. Il y a des vidéos sur le Feel Good qui donne des vidéos pédagogiques sur le bien-être des jeunes. Il y a Feel Santé Jeunes aussi avec le service anonyme et gratuit où on peut avoir de l'aide aussi. Sur le site Amélie, pareil, on nous donne beaucoup d'idées pour les jeunes. Le Psycom, bien sûr. Et je voulais aussi profiter d'une minute pour parler des SISM.
Oui.
Donc c'est les semaines d'information en santé mentale qui sont présentes tous les ans. Donc cette année, c'est du 6 au 19 octobre, où le thème, c'est « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ». Donc ce qui est important à retenir, c'est le « réparons ».
Oui.
Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quelque chose a été...
Il y a une rupture de lien.
Voilà, exactement. Donc voilà, là, actuellement, on travaille justement créer des actions justement pour sensibiliser le grand public.
Et bien, ce que vous ferez, vous nous laisserez toutes ces ressources qu'on mettra sur la chaîne YouTube de RCN en lien à la vidéo de cette émission que je vous invite à réécouter si vous n'avez pas pu tout entendre. Nos échanges ont été passionnants, malheureusement trop courts. Je suis sûr qu'on aurait eu des tas de choses encore à se raconter. Moi, je voudrais juste finir aussi en rappelant qu'il y a le premier secours en santé mentale qui existe et dans une version pour les jeunes, Marie-Paul, et qu'on ne peut que vous inviter nombreux à suivre cette formation qui peut aussi permettre de détecter, d'aider à accompagner des jeunes vers des professionnels ensuite.
C'est une formation pour premier secours en santé mentale pour les personnes qui sont en contact avec des jeunes.
Avec des jeunes. Donc on vous invite vraiment, si c'est le cas, à ce que vous puissiez la faire, faites-la. Voilà, c'était très important. Merci beaucoup, Cynthia Glantz. Je rappelle que vous êtes cadre de santé au CMPEA, qui veut dire enfants et adolescents à Toul. Maxime Lombard, vous êtes cadre en santé transversale au CPN sur le secteur de Toul-Pont-à-Mousson. Merci à vous deux de nous avoir accordé de votre temps ce matin.
Merci évidemment
beaucoup Marie-Paul et Roman, toujours un plaisir d'être à vos côtés, et puis merci à Laura pour la technique de cette émission. On vous souhaite une très belle journée, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Full Santé Mentale.